les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La voix de Serge Reggiani, celle de Michel Bouquet et aussi celle de Nelly Benedetti. Leur voix pour nous faire entendre Louis Aragon, ses vers, sa prose, sa vie. En 1962, Hubert Juin proposait un voyage dans l'œuvre de l'auteur des Voyageurs de l'Impérial, poète, romancier, écrivain et communiste, écrivain et stalinien. Écrivain sans aucun doute, et peut-être seulement cela qui disait. Le mot « engagé » n'a pas le même sens dans mon langage, qui est celui de la concierge et le langage de Jean-Paul Sartre. Et si probablement le concept de l'engagement en vaut dans le cadre des conceptions sartriennes, il ne vaut rien dans la mienne de conception. Je me mets toujours dans une colère folle quand on me dit que je suis un écrivain engagé. Je n'ai jamais été engagé, à aucune Saint-Valentin, je ne suis pas un domestique. Alors écrivain avant tout, Aragon ? Qui peut en douter à l'écoute de ces textes, à les entendre faire vibrer, sans fausse note, les voix de Serge Reggiani et de Michel Bouquet.
Passage du surréalisme. Fait fuir le brouillard devant lui-même. André Breton, Paul Éluard.
RTF France 3 National présente Photogramme. Aujourd'hui, Aragon, par Hubert Juin, avec le concours de Serge Reggiani, Michel Bouquet, Jean-Jacques Aslanian, Nelly Benedetti.
À peine avancions-nous dans le parfum du grand cyclamen nocturne, qu'abandonnant la route pour le plus ombreux des sentiers, nous découvrions au creux des feuillages noirs des figures couplées sur leurs chaises sacrées, sur leurs bancs pareils à des trous dans l'immense solitude humaine. Ô couple, dans votre silence, un grand oiseau se profile soudain. Musique lente, mains serrées, postures diverses. J'ai pris à vos manières, à la diversité de vos manières, un goût damnant, un damné goût de la surprise. Ceux qui sont immobiles, qui ne se regardent point, qui se perdent. Ceux qu'un seul pont unit, par exemple aux épaules. Ceux qui sont tout mêlés du haut en bas du corps. Ceux qui s'écoutent. Ceux qui sont dissipés dans l'air du paysage. Les amoureux distants, les peureux, les pressés. Ceux qui se croient invisibles au fond d'un baiser sans fin. Ceux qui se lèvent soudain et qui marchent. Ceux qui frémissent. Ceux qui découvrent tout à coup le sentiment de l'existence, blotti dans ce plaisir que tout retardera, les voluptueux qui évitent la volupté. Les couples des parcs savent, au-delà de l'humain, faire durer le plaisir. Promenons-nous dans ce décor des désirs, dans ce décor plein de délits mentaux et de spasmes imaginaires. Peut-être, à la trahison d'un geste ou d'un soupir, comprendrons-nous ce qui lie ces fantômes sensibles à l'émouvante vie des buissons trembleurs, aux graviers bleus qui crissent sous nos pieds. Qui me dira le secret des arceaux de fer qui limitent les chemins le long des pelouses? Le secret de ces cœurs soumis à tout un protocole de verdure et à l'accablante loi d'un pays inventé? Avançons, mes amis, dans cette nuit peuplée.
Ce texte est de Louis Aragon. Il date de 1926. Je venais de naître, mais en même temps que moi, par cette voix et par quelques autres qui lui étaient associés, naissait le sens d'une époque. Le sens, la tonalité plutôt. Cette entrée dans une nuit qui n'avait nulle part ailleurs sa pareille, ce porche de l'amour qui devait nous marquer, tous. Il y a un itinéraire d'Aragon et qui le mène jusqu'à ce point d'être l'un des plus grands parmi nos écrivains. Il faudrait refaire pas à pas ce même chemin. On sait que c'est impossible, et surtout dans un espace de temps aussi bref que celui-ci. D'ailleurs, ce qui ce soir nous concerne, c'est le passage d'Aragon dans le surréalisme, cette présence contraignante qu'il fut, brûlant tous les feux rouges, bravant les obstacles, un goût qui ne lui est jamais passé, cette sorte de vertige dont il a parlé maintes et maintes fois, et par lequel nous avons appris à fréquenter Aragon, le meilleur de nous-mêmes.
Louis Aragon est né à Paris le 3 octobre 1897. Beaucoup plus tard, dans des livres qui ont pour titre « Feu de joie », puis surtout « Les voyageurs de l'impérial », il livrera quelques clés pour ce qui fut son enfance. Ce qui nous requiert ici, c'est Aragon prenant la littérature à bras-le-corps et commençant à devenir un grand écrivain.
Première rencontre, ce sont des livres. Aragon est un enfant curieux, que l'imprimé fascine, un liseur plus qu'un lecteur.
L'année de ma première communion, j'avais 11 ans, Monsieur Feuillois, mon professeur de français à l'école Saint-Pierre de Neuilly, me fit donner comme premier prix de narration française les 25 années de vie littéraire de Maurice Barrès, page choisie avec une introduction d'Henri Brémond. La lecture de ce livre fut pour moi un grand coup de soleil. Et il n'est pas exagéré de dire qu'elle décida de l'orientation de ma vie.
On ne parle pas encore de surréalisme. On ne parle encore de rien.
Aragon vient de rencontrer la littérature. Il possède toujours ce livre de Barrès dont il vient de parler, je l'ai eu entre les mains. Il ne lit pas, d'ailleurs, que Barrès.
Une jeune géorgienne me fit lire Gorki, j'avais dans les 12 ans. Celle-là, dont le souvenir est pour beaucoup dans l'une des héroïnes des cloches de Bâle.
Il n'y a pas que la lecture. Aragon passe son premier baccalauréat en juillet 1914, le second en juillet 1915. Quel monde! Tout s'effondre, se reprend. Une couleur de sang revêt tout, depuis les communiqués du front jusqu'au plaisir pervers de l'arrière. Une guerre qui balaie tout, tant elle est meurtrière et tellement elle est inexplicable.
Le jeune Aragon, j'imagine, se soucie peu à l'heure de savoir qu'il y a un devant d'elle dans les chambres françaises et un devant d'elle, cousin peut-être, associé sans nul doute, au Bundestag. Ce qui requiert Aragon, ce n'est pas l'imbécilité, mais le triomphe de quelque chose d'autre. Ce n'est pas la négation, mais l'affirmation. L'affirmation de quoi?
Max Ernst et Paul Éluard, qui sont dans des tranchées opposées, se tirent dessus. À l'hôpital du Val-de-Grâce, nous sommes en 1917, Aragon rencontre un étudiant en médecine, comme lui. C'est André Breton. André Breton a soigné un blessé des plus insolites, Jacques Vacher. Et puis, il se promène toujours avec son ami Philippe Soupeau.
Le surréalisme, c'est déjà cela. Il est fort question de fonder une revue littérature. C'est là un titre férocement métaphorique, et la suite le prouvera. Nos jeunes gens parlent de cette revue durant les permissions, car le Val-de-Grâce a connu son temps. Il a fait aussi long feu que tout en cette époque imprécise. C'est fini.
Aragon a été affecté au 355e régiment d'infanterie.
Et j'ai vu la veuve à tombe ouverte, j'ai vu la champagne dépouillée de gencives sur ce ricanement de squelettes, et la forêt d'Argonne avec l'épouvante des patrouilles égarées, les sables, la tourbe de la Somme, et le long dos d'âne disputé du chemin des dames, arrête vive du massacre.
Croix de guerre le 15 août 1918. Entrée en Alsace. Occupation de la Sarre et de la Rhénanie. Les questions sont toujours sans réponse. L'homme est toujours un homme perdu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Il reste de cette période des témoignages, mais surtout une chanson qui a le mérite d'éclairer tout.
Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle. Sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour, que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
En 1919, André Breton et Philippe Soupeau montrent à Louis Aragon des textes obtenus par la méthode de l'écriture automatique. Écrire plus vite que ne va la pensée. Mettre un L lorsqu'on est stoppé, puis continuer à tout prix.
C'est une façon totale de protester contre ce qui aliène l'homme, et cela paraît aussi une façon formelle et sûre de libérer l'homme de son aliénation. Ces textes sont, en 1919, les deux premiers fragments des futurs chants magnétiques. Le surréalisme toujours, le surréalisme encore, mais il n'a pas de nom. Je veux dire qu'entre ce qui navigue comme vocable, entre les vocables d'Apollinaire et ceux de Saint-Paul Roux, ne s'allie encore aucunement à cette volonté que 3 ou 4 jeunes gens, ensemble, possèdent. Ils veulent tout changer. Ils savent comment procéder. Le levier, ils l'ont. Mais ils ne songent pas encore à donner un nom à ce levier, justement.
Nous étions 3 ou 4 au bout du jour assis, à marier les sons pour rebâtir les choses, sans cesse procédant à des métamorphoses, et nous faisions surgir d'étranges animaux, car l'un de nous avait inventé pour les mots le piège à loup de la vitesse.
Nous n'avons pas le temps d'entrer dans tout le détail des détails de cette époque-là. C'est Dada, soudainement, qui explose, rue aux ours, comme une bombe. Dada commence par prendre tellement les surréalistes sous son aile que le surréalisme ne parvient pas à trouver son visage. En 1921, cependant, le surréalisme se détache de Dada.
Le surréalisme a été, pour ce qu'il eut de légitime, une tentative désespérée de dépasser la négation de Dada et de reconstruire au-delà d'elle une réalité nouvelle.
Une négation dépassée, un espoir affirmé, la terreur réclamée, l'inconscient mobilisé, autant de termes qui remettent en mémoire les beaux jours de la rhétorique révolutionnaire de 89 et de 93. D'ailleurs,
c'est à la lumière d'une image poétique que tout redevenait possible et que nous décidions de passer à l'action. Suivant une coutume qui était chère à quelques-uns d'entre nous, nous reprenions la comparaison de notre état intellectuel avec celui de la Révolution française. Il s'agissait de préparer et de décréter soudain la terreur. Tout se passait comme si, la Révolution survenant, nous en avions la tête. Et d'autre part, nous décidions de ne pas attendre 93, la terreur tout de suite, en 89.
Dans ce même moment, en fait, c'est-à-dire dans le dernier mois de l'année 1920, un nouveau parti prend le départ dans la vie politique française. C'est le Parti communiste français.
Breton et Aragon, qui joignent le goût romantique de la Révolution, avec un R majuscule, à la tentation anarchique, s'en vont frapper aux portes de ce parti-là. C'est une démarche qui semble sans lendemain. Cependant, 6 ans plus tard, Aragon, poussé par la logique qui est en lui, s'inscrira au Parti communiste et lui dédiera la fidélité que l'on sait.
Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis. J'ai toute ma vie appris pour devenir l'homme que je suis. Mais je n'ai pour autant pas oublié l'homme que j'ai été, ou à plus exactement parler, les hommes que j'ai été. Et si entre ces hommes-là et moi, il y a contradiction, si je crois avoir appris, progressé, changeant, ces hommes-là, quand, me retournant, je les regarde, je n'ai point honte d'eux. Ils sont les étapes de ce que je suis. Ils menaient à moi. Je ne peux dire moi sans eux.
En 1920, Aragon publie Feu de joie. Les aventures de Télémaque, l'une des œuvres pré-surréalistes les plus importantes, en 1922. Il avait publié en 1921 Anicet ou le panorama, au fond duquel grouillaient les livraisons Nick Carter, les films de Pearl White, l'épopée de Fantômas mise en livre par Alain et Souvestre.
Tous mes romans, sauf Anicet, et encore, sont historiques.
Les plaisirs de la capitale sont de 1923, et Une vague de rêve, un tiré à part de la revue Commerce, mais qui fait bon poids, de 1924.
Aragon s'intéresse aussi à la peinture. On lui doit un texte capital pour ce moment-là de l'histoire des arts, et c'est La peinture au défi, une apologie insolente et toujours actuelle de l'introduction dans l'art de peindre des éléments les plus divers, depuis le collage et le frottage, chers à Max Ernst, les ready-made, amis de Duchamp, jusqu'au tableau de sable d'André Masson, auquel notre auteur dédiera Le paysan de Paris.
Puis, en 1924, Aragon publie Le libertinage. 4 ans auront passé lorsqu'il lancera dans Paris son ouvrage le plus insolent, Traité du style.
Entre ces deux livres, s'inscrit celui qui a donné au surréalisme ce frisson nouveau qui le rend inoubliable, et c'est Le paysan de Paris.
La nuit descend et les parcs se soulèvent. Comme un homme qui s'endort dans le train se balance et sa main pend. Et bientôt tout ce grand corps qui oublie la vitesse du wagon va se plier dans l'immobilité du rêve. Ainsi la moralité urbaine soudain vacille sous les arbres. Une espèce de langueur qui a l'accent et la grâce de l'inconnaissable franchit les petits ponts rustiques dont plusieurs ne sont point en véritable bois. C'est alors que les gens croient chercher le plaisir. Dans les plis du terrain où tout les sollicite, ils sont les jouets de la nuit. Ils sont les marins de cette voilure en lambeaux. Et voici que déjà tout un peu d'eux-mêmes naufragent. La grande clameur de l'imagination leur fait oublier le silence. Sur les eaux d'agrément, à la cheville nue des cascades, on voit glisser le cygne, etc. Ici commence une région d'éclipse. Ce bruit de chaînes qui tombe au premier pas vers le cœur sombre du jardin.
L'homme qui écrit cela, qui tant enchante et qui tant blesse, n'est pas un homme facile. Il étincelle dès qu'on le touche. C'est une sorte d'orage lancé dans le monde. Il se fâche pour un oui, se brouille pour un non, mêle son plaisir à ses humeurs, son opinion à ses instincts. Il vit avec intensité, avec malaise. Il pense à la mort perchée au-dessus de lui comme un corbeau. Il dérange, il parle.
Renoncez, braves gens, à prendre avec moi un petit plaisir sans danger. Pas un geste, pas un ciment qui ne m'engage à fond, qui ne fasse dévier ma vie. Je pourrais bien vous dire comment il a suffi une ou deux fois de la conscience que je prenais un instant qu'on dénaturait l'alcool, qu'on détournait de leur signification mes paroles pour me faire abandonner tout au monde et me jeter dans quelque chemin précaire, inconnu. Cela ne vous regarde pas. Enfoncez-vous bien dans la tête que je ne veux pas des rigueurs de mon côté. La légèreté ne me va guère. J'ai coutume de dire, mon pesant esprit germanique. Cela amuse beaucoup les badauds. Mais, croyez-moi, cela finira par les emmerder.
Devant le rideau, sept réverbères éteints. Entre l'allumeur de réverbère.
Je suis Popol, j'habite à l'entresol.
Il allume les réverbères et le dernier allumé.
Il y a des gens qui font leur métier sans goût. Moi, pas. J'aime mon métier.
Il repasse en sens inverse, éteint les réverbères et sort en chantant.
Je suis Popol, j'habite à l'entresol.
Les machinistes enlèvent les réverbères, le rideau se lève. Quelque part dans la montagne, Frédéric, équipé pour une ascension, rencontre un chevrier et son troupeau.
Bonjour, monsieur. Un rude soleil.
Et un rude vent, camarade.
C'est-il que vous venez de la vallée du Nord ou de la vallée du Sud?
Je viens de la Romanche. Le car m'a porté jusqu'au col et me voilà marchant.
Oui. C'est-il que vous avez pris le car au chamois vert?
3 jours au chamois vert.
Oui. Il y a une belle fille au chamois vert.
Possible.
Une toute noire, avec des dents blanches. Mélanie.
Mélanie.
Là, on ne peut pas faire autrement. Pas farouche, non? Mais elle a ses lubies. Je l'ai eue une fois, et puis... Bernique, tu croirais la Vierge et les saints.
Ainsi. Une cigarette?
Si ça ne vous prive pas, mais ce vent de chien...
Il allume sa cigarette dans son chapeau.
Et elle allait bien, la Mélanie?
Elle est morte.
Morte? Pour tout bon?
Il laisse tomber sa cigarette.
Vous laissez tomber votre cigarette?
Le chevrier la ramasse machinalement.
Oui, morte comme les moraines, comme la terre. Morte comme ça!
Il frappe le roc d'un coup de piolet.
C'est pas une plaisanterie pour rire, histoire de parler. C'est-il la pure vérité?
Frédéric montre le ciel sans mot dire.
Mélanie et moi dans la montagne.
Hé, les bestioles! En bas!
Mélanie. La joie et le sang. Merci de la vie, monsieur. Mélanie. Oh.
Il sort en poussant ses bêtes devant lui.
Elle avait ses lubies. Et toi qui marches seul sous le soleil et dans le vent, toi qui frappes du pied le sol dur et te racontes tout bas une vieille histoire bien connue. Un jeune homme et une coquette, des baisers dans un grand lit, et plus tard un perron sous la pluie pendant des heures.
Il faut quitter un peu l'histoire de la littérature pour vraiment suivre Aragon à la trace. Il y a le miracle des rues de Paris, mais il y a au revers de cette médaille la solitude. Il y a toutes les expériences préconisées, soutenues par le surréalisme et les surréalistes, depuis l'écriture automatique jusqu'à l'écriture hypnotique, depuis l'amour fou jusqu'au dérèglement de tous les sens. L'amour fou, c'est bien la seule chose qui puisse requérir Aragon errant dans Paris en ce temps-là.
Je ne fais pas difficulté à le reconnaître. Je ne pense à rien, si ce n'est à l'amour.
Alors, suivons-le durant deux soirées successives.
Nous sommes en 1928. Un 5 novembre, puis un 6 novembre. Il n'est pas donné à beaucoup de voir tourner sur elle-même la vie d'un homme et de désaxer qu'elle était, reprendre sa base. Aragon se promène dans un quartier qu'aimait Desnos, pas très loin de l'endroit où est né, il y a longtemps, le fraternel Gérard de Nerval.
C'est tout le fait du hasard si, le miroir et l'esplanade, errant rue de l'hôtel de ville, j'avais été retenu par un phénomène naturel assez singulier pour mériter l'attention, malgré la niaiserie de cette fleur et le cliché qui permet à l'imagination populaire sa naissance entre les pavés. Ai-je dit une violette ? Lorsque d'une maison sort cette grande rousse, et dans l'instant, un adolescent nu, que j'allais lui crier, vous n'y pensez pas, mais le voilà qui m'ouvre une paire d'ailes de 36 couleurs pour disparaître entre les toits. La fille mangeait une gousse d'ail et moi, ma violette entre le pouce et l'index. Alors je la suivais, non que je la trouvasse bien désirable, bigle avec cela, mais plus pour le prodige que pour elle-même de ce monsieur sans autre habit que ses plumes et de la violette aussi, encore que... Bref, je la suivis jusqu'au hall et je m'aperçois que j'ai oublié l'essentiel et le comique de l'histoire. J'y reviens. Il régnait une nuit de petit gris et partant qu'il était bien 2 heures, cela faisait déjà tout le remue-ménage dans le quartier. Depuis qu'on a inventé le cinéma, les nuits, vous croiriez une comédie. Ça prend des airs de grands jours passés au bleu, et il y en a du monde.
Puis ainsi, soliloquant, errant, rêvant, imaginant, rageant, s'en va Louis Aragon, quittant l'ange impoli et la fille affairée, et s'en revient, passant devant le théâtre Sarah Bernhardt, songeant peut-être alors que Nerval s'est tué en l'endroit exact où se trouve depuis nos temps modernes la fosse du souffleur de ce théâtre-là. Il est vrai aussi que Louis Aragon pense sérieusement à en finir avec tous les murs auxquels sa tête se heurte. Il passe la Seine, gagne Montparnasse, bien sûr. Voilà le carrefour Vinvin. Inutile de saluer le Balzac de Rodin. Les lumières qui bondissent des portes-fenêtres suffisent. Voici la coupole. Voici la rotonde. Voilà le dôme. Aragon est là, debout, dans un endroit familier. Mais ses yeux clignent, irrités par la fumée. Il ne fume pas. Par la lumière, il sort de la nuit. Quelqu'un s'approche.
Vous êtes le poète Louis Aragon. Le poète soviétique Vladimir Maïakovski vous invite à sa table.
Maïakovski, une sorte de géant à la voix forte. Parler d'une influence de Maïakovski sur Aragon est ensemble vrai et faux. Il n'y a pas d'influence directe. Comment Aragon pourrait-il alors être influencé par un poète dont il ne comprend pas la langue et qui n'est pas traduit. Mais ce poète, lorsqu'il lit ses œuvres, les lit devant 5000 ouvriers. C'est, me dira plus tard Aragon, un magnifique exemple de l'impérialisme de la poésie.
Le lendemain, Aragon, hanté toujours par ses fantômes, songeant aux géants de la veille qui parlent directement aux gens, qui les approuvent ou les blâment, qui pèsent sur eux de toute sa voix, pousse à nouveau la porte du dôme.
Seule à une table, une femme très belle, qui est née en Russie, se demande ce soir-là, alors qu'elle revient de Tahiti, si elle va regagner son pays ou demeurer en France. Aragon, en face d'elle, cherchant une table, se demande s'il va mourir ou non. Ils ne se sont pas encore vus. Puis, leur regard soudainement s'accroche.
Ma vie, en vérité, commence le jour où je t'ai rencontré. Toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël. Entre tes doigts, je suis né vraiment de ta lèvre. Ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air que te fera ta chant, tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant. Elsa, mon amour, ma jeunesse.
L'amour fou.
Ils ne se sont pas quittés depuis.
Pour Aragon, rien n'était simple. Membre du Parti communiste français, poète surréaliste français, allez mettre un peu d'ordre dans ce désordre.
Or, j'avais commencé Lénine à la façon de Raymond Lull ou Saint-Augustin. Je le tire de ma valise à la Ciotat, à Austerlitz ou à Saint-Pierre-des-Corps. Bien des choses me sont obscures d'être écrites précisément dans le parler de chacun. J'avais-il oublié le sens élémentaire des mots ? À chaque vocable employé, je mesure mon ignorance. Il faudra que je reprenne tout du commencement.
Le commencement d'Aragon, c'est la rencontre avec Elsa Triolet. Tout est obscur, certes, malgré l'amitié vive de Paul Vaillant Couturier. Aragon souffre dans son cœur, dans son âme aussi. Il part pour l'Union soviétique, revient, publie Persécuté, persécuteur. Toute une histoire qui commence par ce que les pouvoirs publics nomment une incitation au meurtre, se poursuit par le premier poème écrit par Aragon pour Elsa, et se termine par la rupture avec les surréalistes, le poète désavouant un écrit d'André Breton qui avait pour titre « Misère de la poésie ».
Front rouge, persécuté, persécuteur, misère de la poésie, l'affaire Aragon.
Je ne sais pas jouer au golf.
Pourquoi le géranium germe-t-il à la boutonnière de tous les gens qui nous font suer ? Est-ce un symbole ? Il faudrait alors qu'on l'explique. Garçon, une explication. Cet abruti m'apporte à la place une incitation au meurtre. Il s'agit d'assassiner Aristide Briand, ministre à vie des AFEX. Bonne pensée qu'on aimerait avoir mise à exécution, c'est le mot. Mais il s'agit de s'entendre. Il ne servirait à rien de tuer Aristide si l'on ne détruisait pas du même coup la famille, l'armée, la religion, la patrie, la propriété des propriétaires. Ah, fusiller ! Fusillez-moi ça ! Quel joli bouquet dans les portes cochères. Tous les autobus en ont mal au ventre. Tous les papillons en ont le hoquet. Et les coupes-files, ah, les coupes-files, ne font plus saluer très bas les vaches lapidées. Vous n'avez jamais vu lapider des vaches ? Personne ne vous retient de vous donner vous-même ce spectacle. Aujourd'hui, on tue gratis. Et comme nous n'avons pas d'argent pour mettre dans des portefeuilles, nous négligeons d'enlever la peau des cadavres des agents pour la faire tanner comme il est d'habitude. Oui, c'est une grande merveille de cette civilisation que l'utilisation des restes fussent-ils ceux des gardiens de la paix. Mais l'heure s'avance. Le temps passe comme le mouron pour les petits oiseaux.
Je ne sais pas jouer au golf.
Tant pis pour moi.
Ainsi que le cœur qui se déchire au début de l'absence, le grisou sautera dans Paris avec un long bruit de luxe brisé. Les enfants regarderont la dernière passe du bordel éclater comme une grenade, puis joueront à une marelle révolutionnaire et philosophique où ciel se lira drapeau rouge et terre, terre, comme si de rien n'était. Les enfants ne connaîtront pas un mot de ce langage avec lequel tu demandes ton chemin dans la rue. Monsieur les fera rire. Et la troisième personne, ce mythe domestique répondant aux sonnettes, étonnera la mémoire autant que les automobiles électriques. On ne se souviendra du monde de tous les jours que par ces chromos de chasse où l'on voit s'émerveiller des dames en bleu et rose d'un renard brandi par un vicomte et le cerf mort au pied naturel des valets dans un bazar rue de la Gaîté. Ainsi que le cœur qui se déchire au début de l'absence, sans respect de l'amour, sans respect des fruits et des fleurs, la révolution tracera n'importe où sur la vitre le trait de diamant qui séparera demain d'après-demain. Et il y aura des franges merveilleuses, comme le carmin des lèvres à la blessure fulgurante de la vie. Il y aura des grappes de désastre pour prix de l'incendie incomparable. Et si l'œil du mourant pris à la charnière de l'univers ancien aperçoit le printemps au-delà des fusillades, qu'il regrette de ne pas vivre assez longtemps avec son corps et son amour, qu'il le regrette bien, tandis que le traverse avec la vitesse de la lumière la baïonnette de la destinée. Les enfants apprendront les mots incompréhensibles de l'histoire. Les enfants riront du Ritz et des frayeurs de la fin. Les enfants chanteront d'anciennes romances. Ce n'est que votre main, madame. Ils compteront à celui qui s'y colle avec les mots désaffectés. Clairvaux, la petite Roquette, la santé, le cherche-midi, Saint-Lazare, la conciergerie. Ils compteront à celui qui s'y colle avec le nom de Dieu. Ils compteront à celui qui s'y colle avec des pièces d'argent et d'or. Ils joueront aux billes avec les diamants, avec la tête des femmes qui se vendirent aux diamants. Ils joueront au cerceau, les enfants, avec la roue qui écrase de nos jours les poètes. Ils joueront à saute-mouton par-dessus les fleuves des larmes. Ils joueront comme nous pleurons lorsque le cœur qui se déchire au début de l'absence ne sait plus retenir les fleuves des larmes par-dessus lesquels l'avenir joue un terrible saute-mouton.
Je sais bien qu'on n'arrive pas de feu de joie au crève-cœur sans passer par Oural-Oural. Et qu'à y regarder de près, c'est la même chose.
Ainsi, Aragon rompt avec les surréalistes en 1931. Mais il garde au cœur la blessure de la poésie et tout son effort va porter à maintenir la poésie vivante. Si les poèmes du crève-cœur ont mis de la lumière dans les ténébreuses années de l'occupation fasciste, Oural-Oural, qui bascule vers une poésie d'affirmation de l'homme, tient encore et solidement aux leçons du surréalisme. Cette voix qui maintenant s'élève appartient autant au grand cyclamen nocturne du paysan de Paris qu'aux plus belles strophes du roman inachevé.
Tu n'y comprends rien, petit cheval. Est-ce que tu ne détestes pas à tes heures le fouet et le goût qu'il donne à ton foin? Est-ce que tu n'as pas vu dans les villages des hommes avoir faim près des vierges en or? Petit cheval, ne presse pas ta course. Écoute, petit cheval, les mots radiophoniques qui sont la clé de ce rébut d'Oural. Écoute, petit cheval, écoute bien. La technique, dans la période de reconstruction, décide de tout. Petit cheval, comprends-moi bien.
Aragon, lui aussi, est à l'écoute. Et ne cessera de l'être.
Elsa Triolet lui enseigne à mettre au bien ce qui était au mal, à passer de Lautréamont à Ducasse, des chants de Maldoror aux poésies. Et de cette histoire convoquée, des voix s'élèvent.
À tuer à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et rouler avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas claque comme une n'est pas morte.
Et si Aragon, à ce moment, quitte le surréalisme, c'est qu'il emporte avec lui le surréalisme. Il n'oubliera jamais ses trois ou quatre compagnons de l'aube. Il le dira.
Malgré tout ce qui vient nous séparer ensemble, ô mes amis d'alors, c'est vous que je revois. Et dans ma mémoire qui tremble, vous gardez vos yeux d'autrefois. Nous avons comme un pain partagé notre aurore. Ce fut, au bout du compte, un merveilleux printemps. Toutes les raisons, tous les torts n'y font rien, mes amis d'antan. Il faut bien accepter ce qui nous transfigure. Tout orage a son temps, toute haine s'éteint. Le ciel toujours redevient pur. Toute nuit fait place au matin. Même si tout cela nous paraît dérisoire, un avenir naissant nous unit à jamais, où l'on raconte des histoires pleines de notre mois de mai.
J'ajoute que je ne choisis pas dans mon passé, dans notre jeunesse. Je me souviens que l'un d'eux, André Breton pour le nommer, il y a longtemps que cela ne m'est arrivé, dans ces heures tragiques, je vous jure, où les choses entre nous se déchirèrent, parce que j'étais devenu communiste, que je voulais être fidèle à la parole donnée, me disait, avec l'amertume du défi, « Mais quand la question se posera pour toi, Rimbaud, Lautréamont, est-ce que tu pourras les défendre devant ton parti ?» Cela semblait alors l'évidence de l'impossibilité. Eh bien, alors, répondre n'était que d'intention, et je n'ai pas répondu. Mais au bout de 30 ans, on peut voir, et que pas seulement pour Rimbaud, Lautréamont, ce qui est devenu, et un peu à cause de moi, facile dans mon parti, j'ai toujours défendu le ciel de ma jeunesse.
RTF France 3 National vous a présenté Photogramme. Aujourd'hui, Aragon, par Hubert Juin. Avec le concours de Serge Reggiani, Michel Bouquet, Jean-Jacques Asplagnan, Nelly Benedetti. Prise de son, Pierre Simon. Assistante, Ève-Augustin Henro. Réalisation, Alain Barraud. Demain, à 19h20, vous pourrez entendre Photogramme, Philippe Soupeau, par Henri-Jacques Dupuis.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 novembre 1962 sur France 3 National. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.